À vue d'esprit, Pierre-Yves Moret.
Maurice Zindel était un théologien et philosophe suisse. Il est mort il y a 40 ans. La pensée éclectique de ce prêtre continue à susciter de l'intérêt aujourd'hui, y compris dans certains milieux scientifiques. Qui sont les héritiers de Maurice Zindel? C'est la question qu'A Vue d'Esprit se pose durant cette semaine. C'est une série d'émissions proposée par Grégory Roth et qui est réalisée par Jean-Claude Gailly. Bonjour Grégory Roth.
Bonjour.
Littérature, science, psychologie, art, autant de domaines qui ont intéressé et touché Maurice Zindel et auxquels il s'est appliqué.
Oui, et c'est ce qui rend sa pensée riche et incarnée, d'autant qu'à son époque, on le rappelle, il est né en 1897 et mort en 1975, une époque où il est plutôt mal vu qu'un prêtre s'intéresse de trop près à la science, à la politique ou à la philosophie. Car le risque est grand que le prêtre s'égare de sa mission première, qui est avant tout dans l'étude de la théologie et l'étude de Dieu.
C'est ça qui a posé problème à Maurice Zindel à l'époque, hein ?
Oui, alors dans les années 20, lorsqu'il a commencé à donner des cours d'éducation sexuelle à des filles d'ouvriers, ou à se prononcer ouvertement sur le fait que des femmes ne peuvent pas voter et devraient pouvoir voter, en 1920, on peut bien imaginer que c'est une époque où ni son évêque, ni la Suisse d'ailleurs, ne sont prêts à entendre de tels arguments. Et donc, Maurice Zindel, qui est un grand intellectuel, n'a jamais cessé de se documenter sur toutes les nouveautés de son temps. Il s'est d'ailleurs intéressé d'assez près aux écrits de Jung et à la psychanalyse.
Et est-ce que vous pensez que Maurice Zindel a influencé ces domaines de psychologie et de psychanalyse par sa pensée ?
Alors, de son temps, c'est difficile à dire, mais ce qui est certain, et comme on l'a entendu depuis le début de la semaine, c'est que beaucoup de personnes venaient vers lui pour y trouver des réponses existentielles, des personnes de tous horizons, et que Maurice Zindel, comme les psychanalyses nous l'enseignent, osait quelquefois le silence en guise de réponse. Alors le silence, une thématique qui ne fait pas peur non plus à notre invité d'aujourd'hui, il s'agit de Véronique Lesage, elle est psychologue clinicienne et hypnothérapeute. Et nous explique comment Maurice Zindel est une source d'inspiration pour son métier, tant en psychologie qu'en hypnothérapie, mais aussi comment sa pensée l'a accompagné dans son cheminement spirituel. Alors elle commence par nous lire un passage de Maurice Zindel qui l'a particulièrement marqué. Véronique Lesage.
Le vrai problème n'est pas de savoir si nous vivons après la mort, mais si nous serons vivants avant la mort. Donc ce passage de Maurice Zindel m'a vraiment interpellée parce que je trouve que ça me fait penser à la citation de Kafka qui dit qu'un livre doit être comme une hache qui fend la mer gelée en nous. Et je trouve que ce que dit Maurice Zindel est tout à fait effractant parce que ça ne va pas de soi de se dire que finalement, est-ce qu'on est vraiment vivant avant de mourir ?
C'est au fond la quête de toute une vie, quelque part, de réfléchir à ça.
Oui, tout à fait. Quel choix nous pouvons faire pour être véritablement vivants ? Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup touchée chez Maurice Zindel. Cette idée que l'homme a la possibilité de choisir de naître une deuxième fois et de se transformer, que l'homme a à se faire sujet et passer de l'homme préfabriqué à l'homme authentique. Et pour moi, ça a fait écho à Jung. J'ai appris que Maurice Zindel était un grand lecteur de Jung, le psychiatre suisse, qui est l'aîné de Maurice Zindel d'une vingtaine d'années, je crois. Et chez Jung, il y a ce qu'on appelle le processus d'individuation, qui est un processus de transformation intérieure par lequel on devient un individu, c'est-à-dire un être autonome et entier. Je trouve que ça... Il y a une proximité dans la pensée de Jung et celle de Maurice Zindel. La construction de ce que Jung appelle le « soi » avec un « S » majuscule, qui s'oppose au « moi » égocentrique, et qui est finalement le centre de la psyché, et qui est ce à quoi l'homme peut accéder, notamment dans la deuxième partie de sa vie, quand il est moins préoccupé de tout ce qui fait la vie matérielle, on va dire.
Alors justement, Véronique Lesage, vous êtes psychologue clinicienne, hypnothérapeute. On le sent bien, il y a des liens. Alors quels sont véritablement ces liens qu'on peut faire entre votre métier et les aspects de la pensée, ces aspects qu'on vient d'évoquer, de la pensée de Maurice Zindel?
Eh bien, je dirais que finalement, ça touche au plus profond de mon métier, parce que toute personne qui vient me voir comme thérapeute a un désir profond de changer quelque chose dans sa vie et n'y arrive pas toute seule. C'est un peu la définition qu'on pourrait donner de la thérapie. Donc c'est quelque part, et bien sûr mes patients viennent de tous horizons, donc je ne me présente pas comme psychologue chrétienne, mais quelle que soit notre approche de la vie, je crois qu'il y a des moments de la vie où on accède à une autre partie de soi qu'on n'avait peut-être pas encore explorée. Voilà, et je pense que pour moi ça fait évidemment un lien avec la pensée de Maurice Zindel. Et puis également tout ce qu'il dit sur l'accueil de l'autre, qui parle à la fois à la personne et puis à la psychologue que je suis aussi. La manière d'accueillir totalement la personne, d'être dans l'attention à l'autre, sans intention et sans prétention.
C'est un risque de votre métier, de s'approprier ou de...
Bien sûr, je crois que l'appropriation, c'est toujours dangereux et peut-être plus particulièrement encore dans notre métier, puisque viennent à nous des personnes qui ressentent un mal-être, qui viennent nous confier parfois des choses qu'elles n'ont dites à personne d'autre. Donc elles sont en souffrance et parfois vulnérables. Donc c'est... extrêmement important de garder, bien sûr, notre déontologie, notre éthique, le respect de l'autre dans sa dimension psychique. Je pense que la manière d'accueillir l'autre, en tout cas tel que Maurice Zindel pratiquait l'accueil de l'autre, me paraît essentielle.
Comment on fait pour accueillir concrètement ? Peut-être par rapport à vos patients, puisqu'on est dans ce domaine.
Oui, alors l'accueil, il se fait en plusieurs parties, je dirais. Il se déjà l'abord de la personne, la manière de dire bonjour, la manière de serrer la main, d'inviter la personne à s'asseoir, de s'enquérir de si elle a trouvé facilement l'endroit, de s'enquérir de son confort. La manière dont le patient se pose dans le fauteuil est très importante. On voit bien les gens qui s'assoient tout au bord du fauteuil, prêts à bondir, et ceux qui arrivent à se poser tout complètement dans le fauteuil. C'est, voilà, alors il y a ce côté évidemment pratique, je dirais, et puis il y a toute la partie de l'attention à l'autre, qui est véritablement une discipline pour le thérapeute. Évidemment qu'on n'y arrive pas toujours parfaitement. Je crois que c'est impossible d'être toujours. On tend vers une attention la plus profonde possible, tout en gardant aussi un filet d'attention pour nous-mêmes, qui vient nous dire ce que nous ressentons face à la personne qui est en face de nous et qui vient nous donner des informations aussi importantes. Voilà, cette attention, elle est idéalement complète. Il y a ce qui se passe dans la relation et ça ne se décrète pas. Il y a des patients avec qui on va entrer en relation, et d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Que cela vienne de nous ou d'eux d'ailleurs, c'est voilà, être en relation, c'est ça se fait à deux.
Il n'y a pas néanmoins
quand même un danger qui reste humain, qui reste fréquent, ce danger justement d'être trop pris, trop happé quelque part par l'histoire de son patient, dans un autre sens, trop d'attention.
Je ne crois pas qu'on puisse porter trop d'attention à quelqu'un. Après, c'est à nous de, comme dans les maisons japonaises avec des cloisons amovibles, hein, c'est à nous de pouvoir refermer la cloison à la fin de la séance. Et c'est à nous, thérapeutes, de trouver le moyen de faire cela. Et ça s'apprend aussi. Et puis quelquefois, on n'y arrive pas. Et alors, c'est important de pouvoir le déposer auprès d'un collègue, de quelqu'un qui va nous superviser. Mais je ne crois pas qu'on puisse porter trop d'attention à quelqu'un, parce qu'il y a tellement à accueillir chez une personne. Il y a évidemment ce que la personne dit, mais il y a aussi le langage non-verbal, ce que la personne montre. Les deux, parfois, peuvent être en dissonance. C'est important de le remarquer. Donc, pendant la séance, je crois qu'il faut être happé par ce qui est en train de se passer là. Je pense à une phrase de Zindel, là que j'ai sous les yeux, qui m'a beaucoup appris. Il nous dit « Si nous avons si souvent une impression d'ennui dans la conversation, c'est que derrière les mots, nous ne sentons personne. » Et là, vous voyez, l'ennui, c'est un signal pour nous en thérapie. Si, en tant que thérapeute, on s'ennuie pendant une séance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que soit nous-mêmes on n'est pas là parce que on n'est pas attentif, ou alors le patient n'est pas véritablement là et nous raconte quelque chose qui n'a rien à voir avec sa véritable problématique. Et c'est à nous de pouvoir lui dire, évidemment avec doigté, hein, pas, ou quelquefois avec de l'humour. Il faut beaucoup utiliser l'humour, je pense. Hein. Il m'arrive d'ailleurs de mettre un nez de clown quelquefois face à mes patients pour les faire réagir. Voilà, pouvoir leur dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas là. Ce que vous me dites, c'est pas ça qui vous habite, qui vous occupe ou qui vous fait souffrir. »
Est-ce que vous avez déjà conseillé, par exemple, à un de vos patients de lire Maurice Zindel?
Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé en tant que tel. Il m'arrive de proposer à mes patients de lire un texte ou une prière ou quelque chose qui me paraît approprié à sa problématique. Mais si un jour je vois qu'il y a un texte de Maurice Zindel qui me semble faire écho à ce que quelqu'un m'amène, à ce moment-là, oui, je le ferai, certainement.
Et quel lien, plus général, faites-vous entre la religion et la psychologie en tant que praticienne?
C'est compliqué parce que, bien sûr qu'il y a des liens. Il y a ce que je vis, moi, au niveau de mon être, de ma personne, puisque je suis une nouvelle convertie. Donc, et que je suis en recherche. Donc forcément, cela influence ma manière de penser, de travailler. Et je ne crois pas qu'on puisse séparer les choses. Cela dit, quand je suis psychologue, je suis à l'écoute du patient. Si il y a une possibilité de parler de Dieu, de parler de la religion, ça arrive, je dirais peut-être de plus en plus fréquemment, pourquoi pas? Mais il faut que ça vienne du patient, c'est pas moi qui vais en parler d'abord, vous voyez. Et je pense que les patients ont cette finesse, puisqu'ils posent parfois des questions. Même si dans mon cabinet, il n'y a pas d'objet qui puisse montrer ma foi chrétienne. Je pense que les patients sentent des choses et qu'ils s'autorisent à poser des questions directes ou indirectes à ce moment-là.
Maurice Zindel utilisait aussi un langage qui était souvent plein d'images, de métaphores. Est-ce que, Véronique Lesage, pour vous, c'est un type de langage qui est praticable aussi pour votre métier ?
Oui, bien sûr, puisque en hypnothérapie, notamment, une grande partie du travail consiste à faire exprimer au patient ce qu'il ressent en métaphore ou à l'aider à en trouver une. Et je crois que c'est très important de pouvoir trouver, exprimer par métaphore. Je vous donne un exemple plus concret. La maladie chronique, par exemple, ça peut être une colocataire dans la vie. Voilà, une colocataire. Alors, une colocataire, elle n'envahit pas tout l'appartement, elle n'envahit pas toute la place. Il y a des règles en colocation. Donc, quand on a une maladie chronique, on peut peut-être aider le patient à imaginer que oui, le patient doit vivre avec ce diabète ou avec une autre pathologie, quelle qu'elle soit, mais garder quand même son espace de liberté. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne comme ça. Voilà, je ne sais pas si c'est parlant. Mm-hmm. Et oui, Maurice Zindel a des métaphores absolument magnifiques. Pour revenir sur la relation, je crois que c'est Bernard de Boissière qui dit « Il s'agenouillait intérieurement devant chacun ». Et ça, je trouve par exemple que c'est très fort comme métaphore. C'est magnifique parce qu'on voit tout de suite quelle est l'attitude.
Recueillement.
Le recueillement et le respect de l'autre, la position basse aussi par rapport à l'autre, qui est ma manière de pratiquer la psychologie.
Cette guérison que vous pratiquez, elle est aussi donc, avec l'hypnose, avec les images.
C'est plutôt du soin que de la guérison.
D'accord.
Parce que la guérison, elle vient de surcroît, mais c'est ce qu'on essaye d'obtenir. La guérison, elle n'est pas de notre fait, c'est la nature, c'est Dieu, c'est le patient qui rétablit dans son organisme ce qui est nécessaire pour qu'il fonctionne mieux. Nous, on est des incubateurs pour permettre que la guérison ait lieu, quelle que soit la nature de cette guérison d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Ça peut être une fin de vie apaisée, par exemple. Même s'il n'y a pas de guérison au sens médical du terme, il peut y avoir guérison de la personne parce qu'elle sent que ce qui se passe finalement, elle consent à ce qui se passe.
Et comment se soigne-t-on avec une parole libératrice ou...
Oui, alors une parole libératrice, une parole juste, une parole qui vient faire sens à l'instant où on la prononce, pour la personne qui est en face de nous. Et puis après, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être un geste qu'on fait vers la personne. Ça peut être prendre la main de quelqu'un, s'asseoir à côté de la personne. Voilà, à chaque fois, à chaque cas, c'est différent. Et il s'agit d'essayer d'être juste dans ce qui se passe.
Et Véronique Lesage, par rapport au... On parle souvent des silences de Maurice Zindel. Comment vous comprenez ça? Vous pouvez conjuguer ça dans votre pratique?
Mais le silence me semble fondamental, comme le dit Maurice Zindel, parce que c'est être en silence, c'est faire de la place. Alors pour Maurice Zindel, c'est faire de la place à Dieu en soi. Oui, c'est faire de la place pour que la vie puisse changer, pour qu'il y ait des choses qui puissent advenir. S'il n'y a pas de silence, on est dans du remplissage et je crois que on n'est pas dans la justesse, là. Et quelquefois, c'est vrai que le silence met mal à l'aise. Mais c'est important de tenir, justement, ces moments-là. Ces moments où il y a quelque chose qui peut se décanter aussi, sans doute, avec ce silence. Et le silence me paraît fondamental et c'est quelque chose que personnellement, pas dans mon travail, mais dans ma vie, je recherche de plus en plus.
Alors, de votre vie, Véronique Lesage, parlons-en. Comment vous êtes-vous entrée en contact avec Maurice Zindel ou avec sa pensée en tout cas?
Alors, c'est une amie moniale qui est férue de Maurice Zindel, de son œuvre, qui m'a proposé de lire Maurice Zindel. Et je crois que j'ai commencé par lire un ouvrage de Fromaget qui est Mort et émerveillement dans la pensée de Maurice Zindel, de Michel Fromaget. Et un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, beaucoup intéressé. À la fois la mort et l'émerveillement aussi.
Vous étiez dans... quelle phase de votre vie? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'on est toujours en recherche, mais et à cette époque, comment cette recherche s'est trouvée enrichie par cette découverte?
Alors, c'était un peu avant ma démarche de baptême, ou pendant la démarche de baptême. J'ai été très touchée par la lecture de Maurice Zindel. Il y a beaucoup de choses que j'ai comprises aussi... Par exemple, la Trinité, quand Maurice Zindel dit « c'est un oiseau qui ne serait que vol », cette métaphore m'a permis de comprendre la Trinité, qui était pour moi un concept un peu ardu. Je ne voyais pas très bien... oui, je voyais les trois personnes, mais... cette relation, le fait que les trois personnes soient tournées l'une vers l'autre, cette relation trinitaire avec cette métaphore de Maurice Zindel, voilà, ça a fait sens pour moi. Voilà une parole juste qui est venue m'aider à grandir, à m'ouvrir.
Car vous étiez en pleine démarche, vous disiez, pour préparer un baptême, c'était récent?
Oui, oui, tout à fait. J'ai été baptisée à 51 ans, donc il y a 5 ans. Donc j'étais très, très avide de lecture et je suis particulièrement entrée avec bonheur dans la lecture de Maurice Zindel.
Aujourd'hui, est-ce que vous restez en contact avec des personnes qu'on pourrait appeler des Zindeliens, des personnes qui sont férues de sa pensée, ou est-ce que c'est toujours une démarche que vous faites dans vos lectures personnelles?
À la fois dans les lectures personnelles et puis aussi à l'occasion de rencontres avec des Zindeliens, à l'occasion d'événements, voilà, de journées, de colloques, qui donnent la possibilité d'écouter des personnes parler de Maurice Zindel.
Si je reviens à votre métier, je dirais, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui concevoir peut-être Véronique Lesage, un modèle de thérapie selon Maurice Zindel pour 2015?
Je ne sais pas si Maurice Zindel aurait voulu qu'il y ait un modèle, parce que je crois qu'il ne souhaitait pas faire école. Il a ça d'ailleurs en commun avec Jung, hein, qui... de la même manière, ne voulait pas qu'on fige sa pensée. Je crois que Maurice Zindel est, en tout cas pour moi personnellement, une source d'inspiration dans ma vie. Donc c'est ça qui me paraît important. Et la lecture de Maurice Zindel est tellement riche, tellement abondante... À chaque fois, j'ai l'impression de découvrir de nouvelles, des choses nouvelles, des phrases poétiques qui m'aident et qui font des ponts avec mon métier. Ce que disait Bernard de Boissière, il ne cherche pas quelque chose, mais quelqu'un. Quelque chose que je trouve vraiment, qui à moi me parle beaucoup. Le fait de chercher quelqu'un et pas quelque chose d'abstrait, finalement. Le fait de rencontrer quelqu'un et de faire toutes les autres rencontres de notre vie à l'image de cette rencontre avec le Christ, finalement.
Les propos de Véronique Lesage, psychologue clinicienne et hypnothérapeute, elle travaille en région parisienne. La pensée de Maurice Zindel, on l'a compris, Grégory Roth, c'est pour elle une source d'inspiration. Ça n'est pas un système figé, c'est bien ça?
Oui, absolument, oui.
Alors demain, on va aborder le dernier volet de cette série d'émissions et on va rencontrer quelqu'un qui exerce un métier proche du vôtre actuellement.
Alors demain, nous serons avec Jean-Claude Guibaud, journaliste, essayiste et chroniqueur au magazine La Vie. Il a publié une trentaine d'ouvrages durant toute sa vie, toute sa carrière. Et dans les dernières années, il nous a fait part de son observation du monde. Alors, comment les intuitions de Maurice Zindel sont-elles encore valables pour notre société actuelle? C'est ce que nous découvrirons avec lui, avec Jean-Claude Guibaud, demain.
Merci Grégory. Merci également à Jean-Claude Gailly pour la réalisation de cette semaine d'émission. Et puis on rappelle que vous avez placé des liens, Grégory, sur notre page internet rts.ch/esprit. Des liens vers les différentes associations qui existent, des amis de Maurice Zindel, ainsi que des publications autour de Maurice Zindel, et puis des activités de différents invités de cette semaine. Je rappelle encore une fois donc l'adresse de cette page internet rts.ch/esprit. C'est la fin de cette édition d'Avis d'Esprit. Merci de nous avoir suivis. Demain, suite et fin de cette série sur les héritiers de Maurice Zindel proposée par Grégory Roth. Et je vous rappelle encore une fois l'adresse de notre page internet rts.ch/esprit. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission rts.ch/esprit. Dans quelques minutes, c'est Daniel Robella, Dernier Entendu. Très belle suite de journée sur Espace 2. Il est 17h.